Bonsoir, merci d'être avec nous. Désolé, on a quelques petites minutes de retard. On va parler dragon ensemble, entre contes et récits de fantasy. On a une jolie table ronde avec nous. À mes côtés, Marie-Charlotte Delmas, qui a fait le dictionnaire de la France merveilleuse en 2017 et qui nous avait signé le légendaire des dragons. Il y a quelques... 2010, oui, 2011, dans ces eaux-là. Nous avons à ses côtés Gérard Le Serre, j'espère que je...
Non, j'écorche. Laser.
Pardon ?
Laser.
Laser. Excusez-moi. Historien folkloriste, président de la Société de l'Histoire du Val et David de Munster, et qui a notamment signé un ouvrage qui s'appelle « Légendes des serpents, dragons et crapauds en Alsace ». Donc on va voir s'il y a, ensemble s'il y a des dragons en Alsace. Et quelle tête ils ont, ces dragons. À ses côtés, Jean-Louis Père. Pareil, je le prononce bien ?
Oui, c'est bien.
Bon, c'est bon. Alors, celui-là, c'est bon. Fondateur du festival de bouche à oreille et de l'association Nitachowa.
Nitachowa.
Formidable. Avec le centre de développement et de ressources pour le conte. Donc, on parlera peut-être des dragons, effectivement, dans les contes. Et puis, le dernier invité, c'est Pierre Fével. Vous connaissez sans doute les ondes de Wildstadt. Vous connaissez sans doute les larmes du cardinal, vous connaissez sans doute les Ambremer et Au Royaume. Si vous ne connaissez pas, il faut vite aller les lire. Et lui aussi, il met des dragons dans ses histoires. Donc, il va nous raconter un petit peu tout ça. Et quelle tête ils ont. Marie-Charlotte, est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est qu'un dragon ? Clairement. Alors, avec un micro.
Pardon. Alors, un dragon, au départ, c'est à la fois un serpent. Un gros serpent, en tout cas pour les Grecs. Je te passe la partie Mésopotamie, parce que quand on voit les dragons qui sont exposés au Louvre et qui étaient sur la porte d'Ishtar à Babylone, on s'aperçoit que ces dragons sont des espèces de grands chiens qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'image du dragon telle qu'elle est restée dans l'imaginaire populaire, l'imaginaire global. Et donc, pour les Grecs, les Romains, et après le Moyen-Âge, le dragon, c'est un gros serpent. C'est un espèce de saurien qui peut avoir deux pattes, quatre pattes, des ailes, pas d'ailes. Et en fait, ces descriptions sont liées aux ossements qu'ont retrouvés les Grecs, Hérodote en parle, d'ossements, d'animaux préhistoriques, voilà, des fois d'ossements d'ours, où ils pensaient que c'était aussi des dragons, sachant que, encore au Moyen-Âge, un dragon n'est pas plus extraordinaire qu'un éléphant. Voilà, c'est un animal, on a retrouvé ses restes, etc. Mais c'est vraiment un ensemble. On retrouve chez Pline, par exemple, il emploie le mot dragon, que ce soit pour les serpents ou pour les dragons, entre guillemets, c'est-à-dire des bêtes un peu plus, qui se battent d'ailleurs avec les éléphants, dit-il.
En gros, ce que tu nous dis, c'est qu'au Moyen-Âge, ça a une crédibilité, parce qu'on n'en a jamais vu comme les éléphants.
Alors oui, la crédibilité, elle va continuer jusqu'au XIXe siècle avec des formes de dragons beaucoup plus atténuées, qui sont les vouivres et les basiliques, qui sont des petits dragons. Mais elle continue. À la limite, les dragons, on sait qu'ils existent, pas là forcément. Ils sont en Inde, ils sont en Égypte, etc. Ou alors ils sont sous la terre, ou alors ils sont dans le ciel. On a des histoires de dragons volants qui ressemblent à des descriptions d'ovnis contemporaines. C'est très curieux.
Jean-Louis Hippert, dans les contes, est-ce que les dragons sont très présents encore ?
Alors moi, j'ai un petit peu de mal.
Ouais.
Un petit peu de mal parce que les dragons, je n'en ai jamais vu. Et comme vous l'avez compris, et comme le disait Marie-Charlotte, nous n'en avons aujourd'hui encore qu'une vision de ce que l'iconographie, la sculpture, Marie-Charlotte a cité un certain nombre d'arts, dont les arts picturaux, effectivement, sur une certaine porte, il y a une représentation. Donc moi, j'en ai que la représentation que je me fais, mais de celle que d'autres gens se sont faites avant moi, par le domaine des arts, les arts picturaux, la danse, le spectacle vivant aussi, le théâtre, la danse, la sculpture. De par mon métier, Je rentre souvent dans les églises, dans les cathédrales, nous y étions encore tout à l'heure, et souvent je regarde ce qui se passe en hauteur, parce que les artisans, et plus particulièrement à la période médiévale, ont eu le souci de la représentation de l'invisible. C'est une, on croyait très fortement, jusqu'au Moyen-Âge, en des êtres fantastiques, des êtres souterrains, des êtres maléfiques. Bien sûr, un certain nombre de circonstances ont favorisé ces croyances. Et on a été dans le domaine de la construction, de l'architecture, parce que je suis issu de ce domaine, on a été dans des édifices que l'on a construits selon certaines normes, mais par contre les artisans, si vous rentrez dans une cathédrale, regardez les chapiteaux, regardez les pinacles, regardez les contreforts, regardez en hauteur et vous verrez que les artisans se sont libérés et que c'est parfois effrayant. Regardez les gargouilles. Donc personne n'a de représentation exacte de ce qu'est un dragon, si ce n'est par ce qui nous est venu des mythes que l'on a effectivement transportés. Comment on les a transportés jusqu'aujourd'hui, on y reviendra peut-être, j'en sais rien. Par les mythes, par les légendes, aussi pour les gens qui sont ici de ce secteur, de cette région, nous en avons une. Enfin, je suis de la région Messine, nous avons le Graouli, n'est-ce pas? Donc, il nous parle par les mythes, par les légendes. Et dans le conte, alors assez étrangement, puisque alors, personnellement, je suis programmateur, aussi producteur, diffuseur dans le domaine du conte et des arts de la parole, et assez étrangement, alors que nous sommes environnés de dragons dans notre légendaire, assez étrangement, aujourd'hui, nous avons peu de spectacles, de contes consacrés aux dragons. Et on pourra revenir sur la classification peut-être de Arne et Thompson, des gens qui ont classifié, dans l'ensemble des contes types qu'ils ont classifiés, il n'y a que deux contes sur les 2400 qu'ils ont classifiés. Donc je parle de contes types, hein, on reviendra sur les versifications des contes types si on veut. Il n'y a que deux allusions au dragon. Donc c'est assez étonnant dans notre culture comment on a, de mon point de vue, oublié le dragon, alors que dans d'autres cultures, on pourra peut-être y revenir aussi, il est omniprésent. Et il n'est pas du tout l'animal fantastique et mythique monstrueux qu'on a voulu nous faire accepter à nous aujourd'hui. Bon, voilà, brièvement dit.
On va revenir à la signification justement du dragon. Personne n'en a vu, mais lui, il les a imaginés. C'est Pierre. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce... Oui, il fonctionne. Comment est-ce que toi, tu as imaginé tes dragons? Je pense évidemment à Wildstatt et puis aux lames du cardinal. Et d'ailleurs, les lames du cardinal, ça nous permettra de reboucler sur l'histoire des contes.
En fait, je ne les ai pas vraiment imaginés. Comme ça vient d'être dit, personne n'a vu de dragon, mais tout le monde en a entendu parler. Et l'idée qu'on s'en fait correspond à ce qui nous a été dit, rapporté, alors, soit par la tradition orale, soit par la tradition picturale, architecture, etc. Enfin, bref, il n'empêche que même si personne n'a jamais vu un dragon, si je vous dis dragon, tout le monde voit quelque chose. Il y a tout de suite une image mentale qui se crée et on voit tout de suite à quoi ça renvoie. Moi, grosso modo, je me suis contenté de ça. C'est-à-dire que pour moi, le dragon, c'est la créature du genre littéraire que j'exploite et que je manie, qui est la fantasy. C'est vraiment la créature imaginaire qui est la plus associée à ce genre-là. C'est de même que le vampire, c'est plutôt le fantastique. Enfin, il y a des catégories comme ça qui peuvent se créer un peu arbitrairement, mais ou taillées à la serpe, mais c'est un résumé assez clair. Donc les dragons, je les ai exploités très tôt. Dans Wildstatt, parce que c'est comme ça que ça a commencé, c'est à peu près mon premier roman, et dès le début, je mets un dragon dedans. Et en fait, l'idée m'est venue parce que je voulais décrire un roman de fantasy, mais qui soit situé dans un contexte historique, en l'occurrence, c'est la guerre de 30 ans. Et je voulais mettre en scène une magie et un merveilleux en lesquels les gens qui vivaient à l'époque croyaient. Donc ma magie était essentiellement kabbalistique et religieuse, dans un sens ou dans l'autre. Et pour ce qui est des créatures, je voulais des créatures en lesquelles les gens croyaient. Soit parce que ces créatures étaient dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il faut reconnaître, mais dans l'Ancien Testament, il est question d'anges, de titans, de faunes, enfin tout ça, il y a des géants, tout ça est là-dedans. Donc comme à l'époque, à peu de choses près, la Bible était un livre historique, les gens y croyaient, donc moi j'en ai mis. Et puis un jour, je feuilletais, un facsimilé bien sûr, mais je feuilletais un bestiaire du 16e siècle, et je fais défiler les pages, et j'ai... la vache, le chat, le chien, l'aigle, le dragon, le dauphin, le dragon. Non, il y a bien le dragon. Et donc, cette créature, l'existence de cette créature ne faisait strictement aucun doute pour les contemporains. Donc, je me suis dit, du coup, boum, j'en mets un. L'avantage du dragon aussi, c'est que il est, pour moi, je peux l'utiliser de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a autant de dragons que d'imaginaires. On s'accorde finalement, grosso modo, sur une apparence, sur un aspect physique du dragon, qui a déjà été évoqué, le reptile ailé avec deux ou quatre pattes, il y a des bas, mais enfin, c'est quand même pas fondamental, quoi. Mais au-delà de ça, finalement, on peut entendre que ce sont soit des créatures qui sont éminemment symboliques, c'est-à-dire qu'ils vont apparaître dans certaines légendes, mais on voit bien que tel dragon blanc, tel dragon rouge incarne le pays de Galles ou l'Irlande, etc. Ils ont donc une fonction éminemment symbolique. Fonction symbolique qui est très forte, surtout en Extrême-Orient, où on va vous parler du dragon de la montagne, du dragon du volcan. Ils ne croient pas fondamentalement qu'il y a un dragon qui vit sous la montagne, ce n'est pas ça l'important. Mais on est dans un niveau d'imaginaire et de mythique qui est au-delà de ça. Ou alors, donc, on peut avoir ce genre de dragon, ou alors on peut avoir des créatures, finalement, on peut les imaginer, comme moi j'ai fait par exemple pour le Paris des Merveilles, qui sont très quotidiennes, c'est-à-dire qui peuvent, grâce à la magie, prendre apparence humaine. Ils ont juste les yeux qui sont un peu bizarres, mais sinon, ils vivent là, on peut leur serrer la poigne, leur parler, on sait qui ils sont, etc. Donc, il y a, au milieu de ce spectre, entre des créatures qui, dans la fantasy en particulier, dont on peut faire des créatures très quotidiennes, très, j'ai envie de dire, normales, l'autre extrême qui est où là, on a, c'est ce que j'ai essayé un peu de faire dans Wildstadt, même s'il est incarné, mais où le dragon est presque une sorte de force de la nature. Il n'est pas plus explicable et pas plus compréhensible par les êtres humains qu'une sécheresse, un nuage de sauterelles, où il a cet aspect-là un peu incompréhensible parce que supra-humain. Bon, entre ces deux extrêmes du spectre, il y a donc tout un spectre qui est agréable à explorer et à décliner pour faire ce qu'on veut de cette créature.
Alors, une petite question à l'historien folkloriste que vous êtes, même chose, votre avis sur tout ça et puis sur l'Alsace, vous avez écrit un bouquin sur les dragons.
Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je voudrais ajouter peut-être une dimension dans notre Occident médiéval, le dragon, en Alsace, nous l'appelons Drora, Drache en allemand. C'est un être qui est presque toujours maléfique. Pourquoi ? Parce qu'il a été associé au diable, puisque dans le texte de l'Apocalypse, il y a le fameux grand Satan qui est représenté sous la forme d'un dragon. Et c'est bien dommage, je voudrais dire, pour le dragon, parce que le dragon est fondamentalement, comme tous ces êtres symboliques ou mythiques au sens noble du terme qui ont été évoqués, ambivalent, c'est-à-dire qu'il peut être positif ou négatif, mais en fonction du moment, de la situation, enfin du contexte, du récit, du mythe, de la légende ou du conte. Donc, je crois que ça, c'est une première remarque. L'autre remarque, pour compléter ce qui a été dit avant, c'est que l'origine du mot dragon vient de derkomai en grec, qui signifie celui qui a le regard perçant. Or, ma voisine l'a dit, une des formes mineures du dragon, c'est le basilic ou basilisque. Et entre autres, on le décrit comme un coq, un mélange de coq et de serpent, dont le regard vous tue. C'est-à-dire, si vous le regardez droit dans les yeux, vous tombez mort par terre. Donc, c'est quelqu'un, un être dont il faut absolument se méfier. Et je voudrais juste évoquer la ville de Bâle, qui se trouve donc dans le bassin rhénan, à la limite, à la frontière de l'Alsace. En allemand, c'est Basel. Et c'est un jeu de mots entre Basel, Basilea, la ville royale, et basilisque, le basilisque, puisque le symbole même de la ville de Bâle, c'est un basilisque. C'est quand même étonnant pour une ville de cette importance. Deuxième élément qui me semble très important, en Alsace, nous avons surtout des dragons qui gardent des trésors. C'est une des fonctions, on le retrouve par exemple dans les Nibelungen, hein, c'est le fameux Fafnir et compagnie, on le retrouve dans beaucoup de mythes et de légendes. Le gardien du trésor, mais aussi parce que c'est une des formes que prend le diable pour protéger ses propres trésors, puisque dans la tradition orale, on dit que tout ce qui est plus profond que 3 pieds sous terre, c'est-à-dire à peu près 90 cm, appartient au diable. Voilà, ça c'est une vieille représentation et c'est très intéressant. Non, pas partout. Alors, au niveau enquête sur le terrain, moi j'ai rencontré essentiellement ce type de dragon. Vous avez un dragon qui est associé à un lieu magnifique à l'entrée de la vallée de Münster, donc près de Colmar, et c'est un château en ruine dont le donjon est sur une colline qu'on voit de loin, donc c'est quelque chose qui suscite beaucoup l'imagination, et c'est le château qui s'appelle Flixbourg. Le nom d'origine signifie Blixbourg, c'est-à-dire le château d'où on peut regarder, puisque ça permet de voir un peu l'entrée de la vallée de Münster, la plaine. Et on raconte que dans ce donjon, il y a une dame blanche qui habite et que cette dame blanche, elle est condamnée à errer dans les ruines de ce château à certains moments de l'année, généralement en période de pleine lune, mais pas toujours, et que pour la libérer, il faut affronter le dragon qui garde le trésor qui se trouve dans le souterrain du château. Et donc, l'histoire raconte qu'un homme a essayé d'affronter ce dragon, il est monté une nuit de pleine lune dans les ruines du château, il a monté l'escalier, arrivé au sommet de l'escalier, il a vu ce monstre énorme avec des yeux grands comme une roue de chariot dans lesquels dansaient les flammes du purgatoire, et puis ce dragon tenait dans sa gueule une clé en argent. Cette clé permet d'accéder au trésor qui se trouve dans le souterrain, mais cette clé permet aussi de libérer la dame blanche, la malédiction qui pèse sur elle, puisque dans beaucoup de cas, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est une revenante, donc qui est condamnée au purgatoire et ainsi de suite. Mais malheureusement, il n'arrive pas à libérer la dame blanche parce qu'au moment où il met la main sur la clé, après un effort presque surhumain, il tombe par terre, évanoui, terrassé par l'émotion. Et donc, le dragon continue à hanter les alentours de ce château. Et moi, je dis toujours, quand je raconte cette histoire, eh bien, avis aux amateurs, ceux qui veulent devenir riches, il faut qu'ils aillent affronter le dragon du Flixbourg. Deuxième exemple de dragon qui est beaucoup plus sympathique, si j'ose dire. À l'entrée de la vallée de Münster, près de Colmar, il y a une jolie petite cité médiévale qui s'appelle Turckheim. Et le symbole de cette ville de Turckheim, c'est un dragon. Et pas n'importe quel dragon, c'est le dragon du lieu dit Brand, qui signifie l'incendie, ou le lieu de l'incendie en allemand. Et il y a une légende qui est associée à cela, qui est très intéressante. À l'époque où l'Alsace était couverte par la mer, eh bien, il y a un dragon qui est venu de l'autre côté de la plaine rhénane, du côté de la forêt noire, on ne sait pas exactement d'où. Et puis il est venu s'installer au pied d'une colline qui existe toujours, et sur le rebord de cette colline, il y a une petite cavité, qui porte d'ailleurs un joli nom, et je pense que c'est ça qui a donné naissance à ce récit, qui a été collecté au XIXe siècle, c'est le Drachenloch, le trou du dragon. Et c'est une petite cavité, genre abri, un peu, mais apparemment il n'a jamais été habité par les hommes préhistoriques. Et donc voilà que le dragon s'installe à cet emplacement, il goûte le soleil, il goûte la mer, il mange les animaux qu'il trouve ici ou là, il n'y avait pas encore d'humains à l'époque qui venaient l'embêter, et puis il s'était fait un grand ennemi. Ça c'est cette opposition symbolique, on la trouve dans beaucoup de mythes, soleil et dragon, hein, le soleil qui veut tuer le dragon, et on retrouve ça dans beaucoup de mythes. Et donc, au bout d'un moment, il est allongé sur la plage, il se repose, il se fait une bonne sieste, et puis le soleil, qui le déteste, il se dit « Attends, celui-là, je veux m'en débarrasser, j'aime pas ce dragon. Hein, » C'est aussi principe de civilisation. Eh bien, il va percer ses écailles avec ses rayons et il va tuer le dragon. Et donc, le dragon va mourir pendant son sommeil, son sang va couler sur la plage. La mer va emporter ses écailles, son squelette, elle va nettoyer la plage, mais à l'emplacement, et c'est ça qui est intéressant dans le récit, à l'emplacement où est mort ce dragon, eh bien, s'est mis en place un des meilleurs vins d'Alsace qui s'appelle Brand, le lieu de l'incendie, et le récit ajoute, et j'aime bien ce petit détail qu'il faut ajouter toujours, quand on boit un verre de ce bon vin issu de ce grand cru, c'est un grand cru, hein, le du Brand, c'est un terroir précis autour de Turckheim, eh bien, la vengeance du dragon, c'est que si vous buvez un peu trop de ce vin, vous ne retrouvez pas tout de suite le chemin du retour. Voilà, c'est une belle, voilà une légende positive de dragon.
Marie-Charlotte, vous voulez compléter?
Non, c'est bon, parler de la signification du dragon, effectivement, le dragon, c'est bien sûr aussi le dragon de l'Apocalypse de Jean. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la popularité du dragon dans l'Europe romanisée et christianisée, elle va être très fortement liée au christianisme. Pas seulement parce qu'il y a un dragon dans l'Ancien Testament. Il y a des dragons dans l'Ancien Testament qui ne sont que les fameux dragons qu'on retrouve à Babylone dans le poème de la création où la déesse mère Tiamat va chasser les dragons. Mais ce qui va se passer, c'est que beaucoup de héros, Jason, la toison d'or, Hercule qui écrase à sa naissance un serpent, etc. Beaucoup de héros de l'Antiquité vont être des vainqueurs de dragons. C'est-à-dire que c'est le vaincre un dragon, c'est un exploit. Ce qui fait que le christianisme, qui a énormément de mal à s'implanter, et ce jusqu'au 11e, 12e siècle, va... en tout cas dès le 5e siècle dans les Vitae, repris après au 12e siècle, peut-être vous connaissez la légende dorée de Jacques de Voragine, eh bien on va retrouver des saints avec leurs exploits, plus ou moins et souvent plus imaginaires, et ces saints-là qu'on va appeler les saints Soroctones, tueurs de dragons, on va leur faire tuer effectivement des dragons. Enfin, non, on va leur faire vaincre des dragons. Parce que là où les héros de l'Antiquité tuaient le dragon, les saints vont les vaincre avec le signe de croix, avec l'étole, avec les instruments ou les armes, pourrait-on dire, sacerdotales. C'est cette imprégnation des dragons dans les récits très populaires au Moyen-Âge de ces saints Soroctones, qui va, je pense, continuer à faire perdurer cette idée, cet imaginaire ou le fait, comme disait Pierre, que l'on croit véritablement en l'existence de dragons. Ils ont existé ou n'ont pas existé, etc. Quant aux dragons, effectivement, gardiens de trésors, donc on les trouve dans l'Antiquité aussi, mais moi, je travaille que sur la France, je ne fais pas de comparatisme parce que c'est une science à part entière, et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les êtres surnaturels qui vivent de façon souterraine gardent des trésors, puisque les trésors sont sous la terre. Voilà. Donc les lutins, que ce soit dans les dolmens, les machins, etc. Et effectivement, les dragons, les vouivres, pas sûr pour les basiliques, par contre. Mais les vouivres, oui, elles gardent beaucoup. Très faute. On en trouve beaucoup en Franche-Comté. Voilà. Donc, je voulais parler.
On s'arrête sur... Pierre, dans tes romans, tu as des dragons qui s'incarnent en hommes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Puis après, on verra s'il y a des légendes qui peuvent correspondre.
Alors oui, c'est un terme que j'ai un petit peu abordé dans le Paris des Merveilles, mais qui n'était pas central. Par contre, pour les Lames du Cardinal, j'en ai fait vraiment quelque chose d'important. En fait, j'ai imaginé que les dragons avaient jadis régné sur Terre, que leur temps était révolu, qu'ils auraient dû s'éteindre, disparaître, et puis avec l'avènement de l'homme. Mais ils sont restés. Ça s'est plutôt mal passé, le plus souvent. Et j'imaginais, en fait, deux espèces de races se battant pour une même biosphère qui est la Terre. Et pour les Lames du Cardinal, c'est vraiment ça le thème fondamental, c'est que grosso modo, l'homme ayant de l'histoire, enfin une sorte de nécessité cosmique pour lui, faisant que les dragons déclinent et qu'au moment où lui s'élève, certains dragons néanmoins décident de ne pas se laisser faire, ni par le cosmos, ni par autre chose, et grâce à la magie, ils vont prendre apparence humaine et vivre cachés parmi les hommes, puisque lorsqu'ils prenaient forme humaine, ils se prenaient des Saint-Gabriel et des Saint-Michel sur la tête et ça n'allait pas bien. Donc ils ont préféré changer. Mais fondamentalement, c'est ça. Le thème en effet des Lames du Cardinal, c'est d'imaginer deux races, deux espèces qui se disputent un même univers, un même monde qui est le nôtre, la planète Terre, chacun avec ses moyens. Et chacun, finalement, avec d'excellentes raisons qui sont la propre survie de chaque camp. On peut difficilement vouloir aux dragons de vouloir vivre, et pareillement pour les êtres humains. Semble-t-il que vivre ensemble, c'est pas le plus facile pour eux. En tout cas, dans les lames du cardinal, parce que c'est quand même plus intéressant quand les choses se passent mal que quand elles se passent bien. Quoi. Si j'avais commencé, ça se passe dans une France où tout va bien, ça, j'aurais pas fait 3 tomes avec. Donc oui, voilà. C'était intéressant d'imaginer, pour les lames du cardinal en particulier, une race draconique qui est extrêmement diverse. C'est-à-dire que je m'étais dit que dans cet univers-là, toutes les créatures imaginaires, enfin relevant de l'imaginaire, du bestiaire imaginaire, seraient d'une certaine manière ou une autre draconique. C'est-à-dire que j'ai pris la famille du dragon, j'ai tout pris et j'ai tout décliné, et en tirant parfois la corde un peu loin jusqu'à la salamandre, quoi, pour imaginer les créatures imaginaires. Et il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faune, il n'y a aucune autre créature imaginaire que des créatures draconiques. De même manière que, d'un autre côté, humain, il y a les primates et tout ça. Je voulais avoir ça les mettre à la fois en parallèle et en opposition. Et enfin, je voulais avoir des dragons qui, contrairement à ce que j'ai pu faire dans d'autres séries, représentaient toute la variété psychologique possible. C'est-à-dire qu'il y a Il y en a des très sympas, il y en a des pas du tout, il y en a qui sont égoïstes, ambitieux, enfin ils ont tous les mêmes défauts ou qualités que peuvent avoir les êtres humains. Et c'était amusant d'imaginer une sorte de race extraterrestre sur Terre, c'est les dragons face à mes mousquetaires.
Question à tous les trois, est-ce qu'on a des exemples de dragons prenant apparence humaine ?
Non.
Pas ça vous dit rien ?
Non.
Dans certains récits,
je fais ce que je veux.
Ah mais oui, chez Pierre. C'est pour ça que c'est fort.
Oui, oui. Par contre.
Il n'y a pas la vouivre, elle n'est pas censée avoir apparence de femme séduisante. Il y a un peu ça.
Ah, oui. Non, c'est Marcel Aimé. Dans la tradition, jamais.
Eh bien voilà, lui aussi, il a fait ce qu'il voulait, ce brave Marcel.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez à l'arrière-plan de certains récits de Dame Blanche qui sont associés à des récits de dragons, vous avez aussi en arrière-plan le thème de la fée Mélusine, c'est-à-dire de cette fée qui, à certains moments de l'année, une fois par semaine, se transforme à moitié en serpente, pour bien rappeler qu'elle appartient à ce monde féerique, qui n'est pas le monde, entre guillemets, normal des humains, mais qui fait partie d'un autre monde, souvent malheureusement marqué de l'empreinte du diable, ce qui est faux, puisque ce sont des êtres tout à fait intéressants. Et donc, vous avez effectivement ce thème, et vous avez par exemple une des variantes de la Dame Blanche du Pflixbourg, c'est une jeune femme qui se transforme effectivement entièrement en dragon. Je pense que c'est l'influence de Mélusine, mais qui, elle, va littéralement dévorer celui qui va essayer de la libérer du mauvais sort qui est posé sur elle. Donc ça se termine plutôt mal, mais c'est un texte poétique qui a été écrit par un grand poète langue allemand, Pfeffel, qui habitait à Colmar. Je voudrais simplement dire qu'il y a une expression quand même très intéressante. On dit en Alsace quelqu'un qui est très près de ses sous, donc avare, ça peut être un homme ou une femme, on va dire c'est Schakalt, c'est un dragon d'argent, c'est-à-dire il est comme un dragon qui garde au plus près le plus petit des fifrelins, le plus petit des centimes. Et depuis que l'oreille existe, nous avons de nouveau des centimes, donc c'est vraiment, on peut le dire ainsi.
Alors ça me fait penser à deux autres formes de fées serpentes, comme Mélusine, dont on retrouve la trace dans des récits pyrénéens, des Hautes-Pyrénées et dans le Roussillon. Les enchantés encantados du Roussillon sont parfois décrites comme ayant une queue de serpent, pas toutes parce qu'elles sont lavandières. Et il y a un vieux texte dans les Hautes-Pyrénées, vers chez moi, dans la vallée de la Barousse, là, où on raconte que les fées sont au départ des serpents qui se cachent sous les pierres, etc., et qui vont après. Donc il y a quelques comme ça récits qui doivent être des récits assez anciens, même s'ils sont collectés au 18e, ceux-là, ou au 19e. C'est très difficile dans les collectages de savoir d'arriver à retrouver l'archéologie des textes, mais il y en a, mais pas des. Enfin, ce sont des faits.
Alors moi, j'ai noté pas mal de petites choses. Je note l'aspect un peu maléfique. Souvent, je note l'aspect gardien de
Alors, attends, pas que maléfique. Alors, pardon, j'arrête après, ouais. Mais je voudrais juste insister sur ce que vous avez dit, qui est tout à fait intéressant, qui est l'ambivalence du dragon. Ouais. Parce qu'on le retrouve aussi au Moyen-Âge dans une cérémonie qui est la cérémonie des rogations. Donc la cérémonie des rogations, c'était 3 jours où on faisait une espèce de circumambulation autour, on tournait comme ça autour des prés, des champs, des villages, pour, avec le curé en tête bien entendu, pour l'abondance. Alors il y avait un jour pour les moissons, un jour pour les vignes, un jour pour je ne sais plus quoi, les prés peut-être, voilà. Oui c'est ça, moissons, fenaisons et puis la vigne. Et dans un certain nombre d'endroits, on trouve en tête de ces processions des dragons. Vous avez parlé du Graouli, et le Graouli, je pense, était aux rogations, la Tarasque aussi, de Tarascon, est promenée aux rogations, la Gargouille de Rouen, peut-être, aux rogations. Enfin, il y a comme ça des dragons assez célèbres, sauf que ces dragons-là, pour le coup, ils sont pas, on les détruit à la fin, mais ils ont un rôle qui est quand même un rôle qui est lié à l'abondance. Et on leur met des fleurs dans la bouche, on leur glisse des gâteaux dans la bouche. Il y a le dragon et la lézarde de Provins aussi, pareil aux rogations. Et donc, c'est très curieux. Alors, on a très peu de textes. Le problème, c'est qu'au Moyen-Âge, le Graouli, Rabelais en parle. Donc, on a très très peu de textes et on ne peut pas savoir quelle était la mentalité populaire, mais n'empêche que là on constate, alors ce sont des cérémonies qui ont cessé au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe, mais voilà, là les dragons, ils étaient promenés en effigie, ils étaient installés dans les églises, on les gardait avec dans les clochers, tout ça, et donc... ils étaient un signe d'abondance. Donc c'est vrai que c'est très ambivalent, le dragon. C'est pas très bien...
Jean-Louis Père, alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas présents dans les contes, ces dragons? On en parle,
Écoutez, à nouveau, j'en sais rien. par contre, je voudrais revenir effectivement sur ce qui a été dit, notamment sur les rogations, parce que chez nous, c'est resté... quand je dis chez nous, c'est ici, en fait, c'est resté très vivace jusqu'à il y a très peu de temps où l'Église a effectivement interdit ces manifestations parce que c'est revenu avec des choses très, 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 très marquées sur des reposoirs. Vous avez peut-être connu ça, c'est-à-dire qu'on dressait des petits autels devant chez soi, et le curé, lorsqu'il organisait effectivement, oui, oui. Effectivement. Et pour en revenir au Graouli, c'est vrai que Saint Clément, le premier évêque de Metz, l'a promené avec son étole tout autour de Metz pour bien montrer qu'il éradiquait quelque chose. Donc les choses, enfin cela a déjà été dit aussi, le paganisme est resté très très vivace, et plus particulièrement peut-être dans les campagnes, en milieu rural, il fallait l'éradiquer, et c'était un moyen pour peut-être faire comprendre au peuple qu'on éradiquait le dragon, qui était symbole de mal. En Irlande, c'est Saint Patrick qui a délivré l'Irlande de tous ces serpents, les serpents ayant aussi la connotation de quelque chose de maléfique. Nous, en Pays de Niers, on a une petite fée dans la rivière qu'on a après, dont on a exploité la légende pour en faire des contes. Alors effectivement, au début, la difficulté pour un artiste conteur, déjà il faut savoir que le conte est un art de la scène ou un art du spectacle vivant depuis pas très longtemps. Depuis les années 80, les contes se transmettaient de manière, j'allais dire, orale. Un parleur dans les pays scandinaves, c'était souvent des vieux pêcheurs qui racontaient les exploits en mer, les rencontres naturellement, on édulcorait toujours les pêches. En inventant des animaux un petit peu fantastiques, etc. Donc ça se transmettait comme ça, il y avait toujours quelqu'un qui transmettait, qui n'était pas forcément un artiste, et je le disais ce matin dans le cadre des mini-conférences, il y a dans certaines sociétés, des sociétés encore nomades, des traditions de transmission orale très fortes. En Afrique, il y a les griots, mais le griot n'est pas un intermittent du spectacle. Nous, et moi, mon métier, si vous voulez, c'est de m'occuper d'intermittents du spectacle et d'une discipline qui est fort jeune dans le monde du spectacle vivant, qui est à l'origine du théâtre Pourtant, alors que les gens de théâtre prétendent que ce sont eux qui sont à l'origine de la discipline du conte, c'est tout à fait l'inverse. On a commencé à parler d'abord.
De toute façon, ça se compare même pas. Quoi.
Oui, mais les gens du théâtre sont sur ce type de registre. On a commencé à parler d'abord et on a mis en scène après. Donc ça, c'est pour effectivement préciser que la discipline du conte est relativement récente en France. C'est les années 80 qu'il n'y a pas énormément de conteurs. Aujourd'hui, ils sont effectivement en explosion. Et un certain nombre de jeunes ne sont plus dans ce qu'un conteur de renom dit, que ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas de transmettre les contes traditionnels, mais c'est bien d'enfanter des versions nouvelles de ces contes traditionnels, chose que de tout temps en fait les conteurs. Alors nous, ça fait 25 ans que l'on programme, dans le cadre d'un festival qui s'appelle De Bouche à Oreille, festival de contes et légendes en Pays de Niers, pas très loin d'ici, 1h30 de route, plus à l'est. Et pourtant, en 25 années de programmation, en ayant peut-être invité, je ne sais pas, 150 à 200 conteurs, nous n'avons qu'une seule compagnie qui s'est intéressée à cette thématique du dragon, la compagnie Skald, pour ne pas la citer, qui a travaillé sur l'Edda poétique et puis les Volsunga Saga, je ne sais pas si Bani Boulmung, voilà, qui a travaillé, mais sur des poèmes épiques qui sont arrivés jusque nous après avoir été effectivement traduits et qui rapportent en fait leur spectacle, c'est le cœur du dragon. Donc l'or du Rhin, toujours la même thématique et les mêmes motifs, si vous voulez. Un dragon protège un trésor qui est enfoui dans le Rhin, il faut le vaincre. En fait, c'est Sigurd, c'est Fafnir, c'est Siegfried qui tue le dragon en lui plantant son épée dans le cœur, qui subitement boit le sang du dragon. Il y a quand même toujours quelque chose aussi de ce type-là. Je bois le sang du dragon, du coup j'entends, je comprends le langage des oiseaux. Il se croit invincible, il se baigne dans le sang du dragon, manque de peau. Pendant qu'il prend son bain, il y a une feuille qui tombe d'un tilleul et cette feuille se colle dans son dos et il est vulnérable à cet endroit-là. Et ultérieurement, il est tué parce que quelqu'un connaissait sa vulnérabilité à cet endroit-là. Alors voilà, dans le conte, en Occident, je parle, en Occident et dans la classification d'Arne et Thompson, je reviens dessus parce que ce sont des gens qui ont fait un travail formidable que beaucoup leur reprochent peut-être, mais à un moment donné, parmi toutes les versions, le chaperon rouge, je ne sais pas, on en a discuté ce matin, il y en a 400, ils ont déterminé des contes types en disant dans toutes les versions que l'on a là sous la main. Voilà, on retrouve à peu près ses motifs. Donc on va en dégager un. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Donc il y a le AT, on les définit comme ça, AT 300. Ils ont un numéro. Il y a les contes d'animaux, les contes merveilleux, les contes facétieux. Dans les contes d'animaux, en AT 300, c'est le seul, c'est le tueur de dragons. Par contre, après, il y a tout un paquet de versions en Alsace, en Lorraine, dans le Quercy, dans toutes les provinces. On a voulu s'approprier, je pense, tout ce qui était en lien avec le dragon, sauf que ce ne sont pas partout des dragons. Souvent, le médium ou l'objet aidant dans le conte, dans la structure narrative d'un conte, on dit à un moment donné que quelque chose vient aider le héros dans sa conquête. Alors c'est un objet, ça peut être un personnage, etc. Dans toutes ces versions, ce ne sont pas forcément des dragons, mais ce sont des animaux un peu bizarres. Ce sont des chiens, ce sont des ours, ce sont des loups. Parce que dans cette région-là, je sais pas moi, dans les Pyrénées, ce sont peut-être des ours. Voilà, dans les Alpes, ce sont peut-être des loups. Et nous, au niveau du pays de Niers, la Niers étant la rivière qui traverse le territoire, on a une fée, mais une fée d'eau, une andine. Donc, il en existe. Et pour les gens qui sortent du coin, pardon. On a des andines, oui. Alors là aussi, c'est comme pour les dragons. Moi, je ne les ai jamais vus et pourtant, je me promène pratiquement tous les jours sur les bords de la Niers. Mais il y a des choses comme ça qui nous parlent sur le territoire. Si vous êtes ici de la région Lorraine, vous avez la Wavre dans la Meuse, n'est-ce pas? La Wavre, au niveau du toponyme, c'est les Vouivres. Donc pourquoi c'est intéressant de savoir pourquoi la région Wavre s'est appelée la Wavre à un moment donné. C'est pas quelqu'un qui a décrété comme ça de dire. Donc ça remonte à une période relativement ancienne où effectivement la croyance était extrêmement forte de présence parce qu'on est dans des lieux humides de vivre dans ce secteur-là. Et nous avons une toute petite fée qui, justement peut revêtir une apparence tout à fait humaine. Donc c'est une ondine qui vit dans la rivière, au fond de l'eau, et qui se balade. Et c'est là qu'intervient la légende. La légende repose toujours sur un endroit géographique, sur un personnage, sur un lieu, sur quelque chose de clairement identifié. Donc, au niveau du pays de Niers, nous avons une particularité, c'est que c'est une énorme zone de migration pour des migrateurs, alors pour certains qui ne font que passer. Par contre, il y en a un seul qui nidifie en pays de Niers, il s'arrête là pour faire ses petits, c'est le courlis cendré. Courlis cendré, c'est une espèce de grosse caille avec le bec légèrement courbé, très, très long comme oiseau, parce que c'est un fuisseur. Voilà. Donc, il vient faire ses petits là. Les petits éclosent, les œufs se cassent, les œufs sont emportés au gré de la rivière, et parfois, si on regarde bien, on peut y voir ondine, quoi. Voilà, mais bon, je ne l'ai jamais vue. Mais par contre, elle a aussi des pouvoirs, et notamment, c'était une écolo avant l'heure, parce que, figurez-vous, qu'elle attire les gens qui portent atteinte à la nature au fond de l'eau, et ces gens-là, naturellement, on ne les revoit jamais. Alors, pour les attirer au fond de l'eau, étant donné qu'on ne la voit pas, vu qu'elle est très petite, elle a cette possibilité de se transformer. Alors, naturellement, je ne vous la décris pas en belle jeune fille, parce que sinon vous allez tous courir. En belle jeune fille, elle attire les personnages au fond de l'eau et on ne les revoit plus. Donc son royaume est au fond de l'eau.
Alors, une réaction.
Oui, oui. Pas une réaction par rapport à ce qu'il a dit, mais ce que j'ai pu constater dans l'enquête que je fais depuis longtemps, entre autres en Alsace, sur le thème des dragons, serpents et crapauds, c'est que ces trois personnages, puisque là je parle volontairement de personnages, sont interchangeables. C'est-à-dire que dans certains récits, au lieu que vous ayez un dragon, c'est un serpent, ou enfin, qui est très proche de ça, ce qui a été dit, mais aussi le crapaud, hein, dans certains cas, c'est un crapaud, mais la fonction du crapaud est aussi gardienne de trésors, monstre issu du purgatoire, donc une des formes du diable. Autre élément que je voudrais juste rapidement évoquer, qui est très, très intéressant, ce sont les rois ou reines serpents. Ce sont des serpents qui sont couronnés dans les récits, qui se promènent au bord de l'eau. Alors souvent, on pense que ce sont des couleuvres à collier. Vous savez qu'ils, de loin, ont l'impression qu'elles ont une sorte de petite couronne autour de la tête. Et la couleuvre est inoffensive. Et puis, certaines couleuvres adorent aller dans l'eau. Elles nagent très, très bien. Et donc, il y a des récits de serpents ou de serpentes couronnées. Et là, je voudrais aussi revenir à cette ambivalence que nous avons évoquée avant, qui est fondamentale en Alsace. Moi, je connais des personnes qui avaient dans leur cave un crapaud. Et quand je les ai interrogées, mais pourquoi vous avez un crapaud? C'est le gardien de la maison. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps ce côté, ça a été dit plusieurs fois, positif, négatif, en fonction du récit, du contexte. Et c'est vrai aussi dans certains cas, dans la langue allemande, on appelle ça dit Unke, U-N-K-E, mais du côté aussi du serpent, la couleuvre peut être un gardien de la maison, gardien positif, parce que le serpent est en association, c'est un des symboles de notre psychisme, hein, dans la tradition. Pensons aussi à l'ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, qui est symbole de la totalité de l'univers. Donc, le serpent est protecteur, il peut être positif. Et je voudrais juste, pour terminer là-dessus, fondamentalement insister sur l'ambivalence de ces figures qui peuvent être ou positives ou négatives. Et c'est ça qui est très important. C'est vrai pour les gnomes, pour les fées, les géants. On retrouve toujours cette même qualité parce qu'ils sont des êtres limites entre deux mondes, notre monde que nous connaissons, disons, le monde habituel, réel, et le monde de l'imaginaire.
On n'est pas dans le bien et le mal, on n'est pas dans le manichéisme des relations, des religions du livre. Voilà. Et donc, absolument, oui. Non, mais moi, ce que je voulais juste dire, ça est très rapide, c'est parce qu'il parlait du sang qu'on buvait. Et je te disais, tout est bon chez le dragon, parce qu'on voit dans l'histoire naturelle de Pline, qui est un naturaliste du 1er siècle de notre ère, un naturaliste latin, il y a je ne sais combien de paragraphes sur les bienfaits du dragon. Alors, le sang du dragon, la rate du dragon, et puis la dragonite, la pierre le dragon aurait dans son crâne, et les pattes de dragon, et les machins de dragon. Et tout ça est relayé parce que, quand on va, à partir du XIIe siècle, au Moyen-Âge, on commence à apprécier et à traduire les poètes et les savants latins et romains. Et du coup, les savants, on va dire, européens, français, pour ce qui me concerne, de la Renaissance y compris, vont beaucoup reprendre Pline. Et on retrouve dans les textes d'Ambroise Paré, et en particulier dans son passage sur les dragons, il reprend texto le passage de Pline. Voilà. Et donc, il le respecte énormément parce que ces 37 volumes de l'histoire naturelle, c'est tout, une espèce de grande synthèse de tout ce qui a existé en matière médicale, en matière de plantes, avant lui. Donc, il a fait un travail remarquable, hein, sans ordinateur, comme vous pouvez le penser. Et donc, du coup, oui, sur les dragons, il y en a. Et donc, ça va être repris après dans les grimoires, un peu plus tardifs d'ailleurs, souvent 17e, 18e, Petit Albert, tout ça, et on reprend. Voilà. Donc, tout est bon dans le dragon.
C'est
tu pourras, tu vois.
C'est peut-être un livre de cuisine plus tard.
Voilà, un livre de cuisine, Pierre.
Pour Pierre. On arrive à la fin. Vous êtes passionnant. Il nous reste 6 minutes. Est-ce que quelqu'un a une petite question à leur poser?
Mais ça peut aussi être une grande question. Hein.
Oh, une grande question. Alors moi j'en ai une, mais il faut une réponse courte. D'accord. En gros, qu'est-ce que le dragon dit de nous, dit de l'homme?
Je dirais, qu'est-ce que l'homme dit du dragon? Parce que le dragon, il dit rien, le pauvre. mais moi, je dis, depuis la sortie du premier volume de mon dictionnaire, j'ai eu la chance de faire quelques plateaux de télévision. Et je dis partout, je rappelle partout l'importance des racines païennes de la France, voilà, qui sont excessivement puissantes et tardivement puissantes. Voilà, ce qu'il dit au travers des textes qu'on va retrouver pour nous, je parle toujours du territoire sur lequel travaille la France au Moyen-Âge, c'est en fait ce travail d'acculturation, c'est-à-dire qu'on ne change pas de culture, mais on passe d'une culture à l'autre, entre le paganisme et le christianisme. Et donc, le dragon, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est entre les deux, quoi. Il fait partie du monstre qui va être récupéré, du monstre entre guillemets, on l'a suffisamment ambivalent, machin, voilà. Et donc, du coup, comme les autres êtres surnaturels qui sont des avatars de dieux, de déesses, etc., eh ben forcément, il est ambivalent, parce que cette ambivalence, c'est paganisme, christianisme aussi. On peut aussi la lire dans ce sens-là.
Oui, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est si vous me permettez la formule, c'est le retour du dragon dans l'imaginaire actuel, à travers la science-fiction, mais aussi dans les films. Je pense, par exemple, avec le fameux Bilbo, avec je sais plus comment il s'appelle, avec le fameux dragon qui est aussi un gardien de trésor, qui est extraordinaire. Hein. Le Smaug, voilà, il s'appelle Smaug. Vous avez beaucoup de films avec des dragons, vous avez beaucoup de livres, je pense à la science-fiction, mais uniquement, avec le dragon. Ça m'interroge beaucoup. Est-ce que le dragon, dans notre imaginaire d'aujourd'hui, ne serait pas le symbole de notre technologie qui, elle aussi, est ambivalente? C'est-à-dire qu'elle peut détruire comme construire. C'est une question que je pose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tout à coup, pendant des années, le dragon, on l'a presque oublié, sauf pour les spécialistes qui l'apprécient beaucoup parce que ça nourrit notre imaginaire et ça nous permet d'en parler. Mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, depuis une dizaine, quinzaine d'années, y compris dans la fantasy ou dans d'autres contextes littéraires, le dragon est de retour? Voilà une grande interrogation.
Pierre?
Oui, il est visuel.
Je te repasse la balle.
Clétil?
De la roulette.
C'était quel sujet?
Donc ce retour du dragon dans les champs littéraires de littérature de l'imaginaire.
Je pense qu'il est aidé par l'évolution des effets spéciaux.
Ça de toute façon.
Il y en a quand même. Ça coûte moins cher de faire des dragons maintenant, donc il y en a forcément un peu plus. Au-delà de ça, parce que je disais ça pour la blague. C'est une créature. Ça rejoint ce qu'on disait au tout début. Elle a ceci de fabuleux, c'est que sans que personne n'en ait jamais vu un, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Elle fait immédiatement écho à quelque chose au fond de nous, mais de nous aussi bien au niveau humain qu'au niveau des sociétés, des cultures. Évidemment, on a parlé de nos dragons de chez nous, mais ceux de l'Extrême-Orient sont tout aussi fascinants et très, très, très codifiés. Le nombre de doigts compte, par exemple, sur le dragon. Il est impérial quand il a 5 doigts. 5 doigts, c'est la main de l'homme. Donc, tout ça a un sens. C'est moi ce que j'aime dans cette créature, c'est qu'elle est à la fois, je l'ai souvent dit, emblématique, vous voulez faire comprendre que vous faites un roman de fantasy ou un film de fantasy, vous mettez un dragon sur la couverture ou sur l'affiche, tout le monde comprend. Il est éminemment polymorphe, il y a autant de dragons qu'il y a d'imaginaires, avec en même temps ce noyau fondamental qui fait que tout le monde s'y retrouve. C'est l'air de rien, il n'y a pas beaucoup de créatures qui ont cette dimension-là. C'est sans doute pour ça que moi, j'en mets dans tous mes romans. Parce que c'est... Puis en plus, c'est cool, quoi.
Ouais, c'est vachement cool. Voilà. Ouais, ça, c'était le mot de la fin.
Voilà. C'est un joli mot de la fin.
Même s'il crache le feu, hein, mais c'est pas grave.